L'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie qui appartienne aux Algériens.
L'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Challes, Jouot et Zemmer.
أول فيفري 79 عودة آية الله الخميني إلى إيران.
أيها الإخوة والأخوات، وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.
C'est le seul pays qui pourrait devenir un pays sophistiqué dans le continent de l'Asie, à part le Japon. C'est ou bien l'Iran, indépendante et moderne et progressiste, ou rien.
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها وهي في نفس الوقت معركة حياة أو موت.
ناصر Bourguiba, Nehru, Monseigneur Makarios, le Négus Haïlé Sélassié sont là.
Bonsoir, l'Histoire en Marche est une émission réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Dans ce troisième numéro de l'Histoire en Marche, spécial Maroc, il sera question du quotidien de nos voisins de l'Ouest, que nous semblons partager, car nous l'aurions vécu de façon peut-être différente. Sera à vous d'en juger, mais en termes de temps, nous aurions pris quelques longueurs d'avance, ces longueurs ayant peut-être profité à nos voisins marocains. Sous forme d'interview, cette première partie sera bien sûr consacrée à des interviews. Les positions du roi Mohamed VI quant à cette question qui nous concerne une large ou qui concerne une large partie de son royaume, à savoir la question Amazir, a-t-elle été tranchée ? Y a-t-il un problème Amazir au Maroc ? Et de quelle nature est-il ? Sur quelle réalité sociologique s'appuie le mouvement berbéri chez nos voisins de l'Ouest ? Cette société, composée à plus de 60% de berbères, n'a-t-elle pas connu dans le passé les frontières ou les foudres de la monarchie ? Rappelons-nous ce qui s'est passé dans le Rif. Pourquoi l'enseignement du Tifinagh n'est-il pas encore introduit dans les écoles, tel qu'attendu précédemment, après signature et décision ? Hassan Dour est dans le passé emprisonné un grand nombre de militants berbères, des militants relâchés par son fils après son intronisation sur ce plan. Quelles sont les similitudes que l'on pourrait établir entre nos deux sociétés ? Ou pour revenir à plus concret, existe-t-il des similitudes ? Première intervention, celle de M. Mahjoub Ahardan, secrétaire général du mouvement populaire, un mouvement berbériste qui répond à nos questions.
Avec l'arrivée de Mohamed VI, beaucoup de politiques berbères ont été libérées, beaucoup de décisions dans ce sens ont été prises. Est-ce que vous sentez que pour la question berbère, il y a eu un changement de Hassan II à Mohamed VI ?
Il y a eu un changement, il y a eu Hassan II qui a toujours proclamé. Hassan II n'a jamais été contre l'Amazirité, l'Amazir en général. Mais il y avait l'entourage, il y avait les entourages, il y avait le... Il y avait un tas de freins. Il y a un tas de freins. Je vous dis simplement un exemple. Et une fois, un jour, on était à Ifrane, j'étais au gouvernement, et Sa Majesté Hassan II nous a dit, j'ai vu hier quelque chose qui m'a dit plus à la télévision. C'est-à-dire sur le plan d'Oulabi, ou je ne sais pas quoi, ou le champ, tout ça. Et il a nommé une commission. Il m'a mis à la tête de cette commission-là. Il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et tous les ministères pour pouvoir, pour la sauvegarde des arts et expressions populaires. Ce qui fait qu'il m'a demandé d'étudier, nous avons étudié et nous avons lancé l'idée d'un institut pour la sauvegarde des arts et expressions populaires.
Oui.
Alors, c'est passé en conseil du gouvernement. Donc c'est accepté. Et j'ai envoyé à Sa Majesté pour donner son avis sur le texte. Il a corrigé de sa propre main pour ajouter autre chose. Mm-hmm. Et on me téléphone à minuit, une heure pour me dire, Sa Majesté dit de ne pas dormir, attendez quelque chose. Il m'a envoyé à 3h30, 4h du matin, le texte signé pour. Donc, c'est passé en Conseil des ministres, donc avec la présidente du gouvernement. C'est arrivé au Parlement, ça a été stoppé jusqu'à maintenant.
Oui.
Ce qui fait qu'il y a eu toujours ce pouvoir...
Parler de l'administration ?
Ben, l'administration, la politique, vous savez, si, ça n'a pas été facile chez nous aussi.
Mais le roi au Maroc a toujours été souverain, le dernier mot lui revient toujours.
Le roi au Maroc, maintenant, décrit, c'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend maintenant des Berbères eux-mêmes, ça dépend des Imazighens eux-mêmes maintenant.
Alors, est-ce que ça ne vous semble pas quelque peu étonnant qu'au Maroc, les Berbères constituant la majorité de la société, certains parlent de 60%, d'autres parlent de 70%, et pourtant, le tamazight n'est pas une langue donc constitutionnelle, reconnue constitutionnellement, pas une langue reconnue nationale, etc. Donc la lutte vous semble encore très longue ?
Vous savez, à l'indépendance, il y a eu la première constitution.
Oui.
Et je me suis battu moi-même pour qu'il ne soit pas dit. Donc il est dit que le Maroc fait partie de cette terre de machin là, que le Maroc c'est un pays musulman mais pas arabe, et que la langue officielle c'est la langue arabe. Donc qui dit langue officielle, langue arabe, suppose le reste. Mais depuis, nous étions dans la bagarre, moi-même, on était toujours dans cette bagarre. Moi je me rappelle bien qu'il n'y avait pas une soirée où j'allais en ville pour passer une soirée quelconque chez des gens, à des arabistes, parce que j'appelle les arabistes, pas les arabes. Je les appelle des arabistes sans bagarre. Il n'y a pas une soirée sans bagarre. Maintenant, ça a changé beaucoup. Maintenant, tout le monde parle de tamazight pour une soirée d'élection, peut-être. Le jour, le roi Hassan II est allé voir le pape. Et j'étais avec lui dans l'avion. Et j'avais donné, à l'époque, il y avait une revue à Mazir. Je lui ai offert le 5e numéro d'Amazir. Mais c'est Antefena, et c'est Chaffer qui nous donnait la grammaire en tamazight. Il y a le premier ministre, Mahdi Bouabid, qui était entre nous, il est mort, que Dieu ait son âme, m'a dit, pourquoi vous n'écrivez pas en lettres arabes? Et le roi lui répond, va-toi écrire l'arabe en lettres latines, et tu verras ce que ça va donner.
Alors, comment expliquer que dans beaucoup d'articles, etc., on parle de militants politiques berbères qui auraient fait la prison, qui auraient été torturés? Comment expliquer ceci?
Torturés?
Oui.
Ben, je ne sais pas, moi je ne connais pas des militants. Moi, s'il y a un qui peut s'en arguer d'être un des militants berbères, c'est moi.
Oui.
Il y a eu des machins de police, il y a eu Ouzine, par exemple, qui a été arrêté pendant 15 jours, il a fallu des histoires pour l'enterrer. Il y a eu des problèmes, oui, mais pas de torture.
Pas de torture.
Mais pas, non.
Alors, puisque aujourd'hui on parle de l'écriture tamazight, etc., je voudrais vous poser la question suivante. Qu'en est-il de l'enseignement du tamazight dans les écoles? Il y a eu une décision dans ce sens, mais il n'y a pas encore eu introduction.
Cette fois-ci, c'est sérieux. Ça va commencer. On va voir, mais de toutes les façons, c'est lancé.
C'est lancé. Dans certaines écoles au Maroc, la langue hébraïque est enseignée.
Oui,
mais le tamazight ne l'est pas encore.
Le tamazight ne l'est pas encore. Et ça va l'être maintenant.
Ça va l'être.
Il y a des écoles libres tamazight maintenant dans le Rif et ça s'étale sur le Maroc. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience algérienne qui est en train de se dérouler dans les régions de la Kabylie?
Quand j'ai été à Tizi Ouzou pour la première fois.
En quelle année?
Ouf, il y a longtemps. Je n'ai pas.
C'était avant 62?
Bien avant 62, et j'ai abordé justement cette question de tamazight. Ça a fait quelques petites histoires, mais ça ne fait rien. Mais nous suivons absolument le combat de la Kabylie, et je peux dire qu'il faut que l'Algérie comprenne que l'Afrique du Nord est berbère. Il n'y a rien d'autre que ça. Aujourd'hui, il y a un retour aux sources. Alors, il faudrait que ça se passe dans l'amitié, dans la fraternité, non pas dans la bataille ou dans la bagarre ou dans la non-reconnaissance des choses qui sont vraies. Pour nous, c'est la reconnaissance qui est importante, et c'est le rôle qu'il doit jouer. Je crois que le problème ne se pose pas de la même façon qu'en Algérie.
Oui,
ici, c'est la grande majorité qui est berbérophone,
oui.
Et qui est même les tribus arabisées se reconnaissent quelques-unes, pas encore, mais ils commencent à découvrir réellement la réalité des données. La Mazirité doit retrouver ses racines et sa force réelle, jusqu'à ce qu'avec l'Algérie, que nous puissions, les Imaziriens peuvent faire l'unité de l'Afrique du Nord.
Oui.
Mais pas les arabophones. Ils ne peuvent pas. Mais nous, parce qu'on se sent frères,
oui,
il n'y a pas de séparation entre un Kabyle, un Tranchaoui, entre un Mzabé, entre un Mazir du Moine Atlas ou du Sousse ou du Rif. Nous ne nous sentons pas. Je vois un Kabyle en France ou un machin, c'est pour moi un frère. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger, ce n'est pas quelqu'un qui est d'une autre nation. Nous sommes une seule nation, même divisée, mais nous sommes une seule nation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'exclusion par rapport à l'autre, puisqu'il y a eu plusieurs brassages dans le Maghreb?
À l'autre, parce que le berbère a toujours laissé le pouvoir entre les mains des autres. C'est simplement...
Il l'a toujours laissé ou on lui a pris le pouvoir?
Parce que, écoute, il était assez fort pour le garder. Mais il le laisse, il laisse faire. Les Imaziriens, il y avait une sorte d'individualisme. On se combattait au lieu de s'unir. Aujourd'hui, nous avons fait le retour sur nous-mêmes. Les Berbères n'ont jamais eu l'occasion que nous avons maintenant, malgré tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dans le temps, on s'unissait par la force des armes. Mmh. Aujourd'hui, il faut s'unir par la force de la raison, par la tête. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'instruments que n'importe quelle nation au monde. Ici au Maroc, en tout cas, et chez vous aussi. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous devons nous tendre la main et essayer de régler le problème. C'est pour ça que l'Algérie et le Maroc doivent s'entendre, parce que là, l'avenir est nulle part. Ce n'est pas dans la guerre, ni dans la bagarre, ni dans la prise d'un territoire que vous pouvez trouver la paix, vous ne la trouverez pas. Aujourd'hui, vous voyez le terrorisme, ce que ça fait. Un bonhomme se fait sauter et le monde entier en parle. C'est fini, les choses ont changé. Aujourd'hui, ce n'est même plus les armées qui peuvent s'imposer. Bien sûr, nous voyons ce qui s'est passé en Irak. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est la force de l'esprit qui doit l'emporter.
Alger Chaîne 3 présente L'Histoire en marche. L'Histoire en marche, vue d'un témoin du siècle.
C'était Mahjoub Ahardan, secrétaire général du mouvement populaire, un mouvement berbériste. Mahjoub Ahardan a été également ministre de la Défense. Sur quoi repose le système électoral au Maroc? Une question à laquelle répondra Abdelrahman Youssoufi. Youssoufi est choisi en février 1998 par le roi Hassan II comme premier ministre pour former un gouvernement ouvert à l'opposition. Dans son bureau du palais royal de Rabat, Hassan II demande au futur premier ministre de prêter serment pour aider et protéger son fils, Mohamed Assad, ce que fait Youssoufi sans hésitation. Sa décision de participer à un gouvernement sous l'autorité de Hassan II, qu'il a toujours combattu, a entraîné de nombreux tiraillements au sein de l'USFP. Certains contestataires, comme le syndicaliste Nobir Amaoui, ont quitté le parti, tandis que d'autres, comme Mohamed Basri ou Mohamed Sassi, ont choisi la contestation interne face au Premier ministre. Ce dernier, qui a été renouvelé à la tête de l'USFP lors d'un congrès ayant eu lieu au mois de mars 2001, a annoncé sa retraite de la vie politique en 2003. Aujourd'hui, Youssoufi revient sur les différentes expériences électorales, mettant au devant de la scène certaines irrégularités et embûches organisées par l'administration. Il expliquera comment certains partis ont été créés de toutes pièces pour contrebalancer les autres partis, partis forts du pays. L'administration étant pour Youssoufi un certain ministère que je vous laisse découvrir, écouter.
Je suis revenu au pays... Un an et demi après, les tentatives de faire une expérience d'alternance n'avaient pas prospéré pendant mon absence. Il fallait encore faire des pas vers l'opposition. Notre démarche consiste à réorganiser le pays, à le structurer, à créer des institutions viables, efficaces, avec un partage de compétences, avec une constitution qui réglemente, oui, la distribution des pouvoirs dans le pays.
Vous avez, lors des dernières élections, obtenu tout de même une majorité. Hein. Vous avez obtenu 50 sièges des 325 sièges de la Chambre des élus. Alors, nous pensions, nous de l'extérieur, et puis probablement ici, que le Premier ministre serait issu de votre parti. Coup de théâtre, le roi, qui se réfère à la constitution de la monarchie, choisit un Premier ministre qui n'émarge pas. Alors, que signifiait ceci pour vous et que signifie toujours ceci pour vous ?
Ceci a signifié pour nous qu'on n'a pas respecté la méthodologie démocratique qui était mise en œuvre depuis l'expérience entreprise par Hassan II en choisissant déjà en 1998 un premier ministre parmi les membres du parti qui étaient le plus nombreux dans la Chambre des députés. Cela n'a pas été fait. Nous avons considéré cela comme une entorse à la méthodologie démocratique en place et nous l'avons signifié dans un communiqué bref, net, mais fort, qui a eu un grand écho aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. L'atmosphère a été un peu préparée pour cela. Il y a eu des ambitions pour occuper ce poste. Il y a eu une espèce de mise en scène politique qui pouvait laisser croire qu'il n'y aurait pas une majorité si jamais un Premier ministre issu de l'USFP était désigné. Mais cela relevait plutôt d'une mise en scène tout à fait artificielle. Combien de Marocains votaient avant ? Moi, je ne suis pas sûr qu'avant, il y avait 53% de Marocains qui votaient. Je crois que le jour où l'on connaîtra la vérité, on sera surpris par l'énormité de ce chiffre.
Vous avez un chiffre ?
Non, je ne l'ai pas encore.
D'accord. Alors, nous avons différentes mouvances, différentes tendances. Est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui qu'au Maroc, les différents partis existants sont effectivement des partis d'opposition ? Et si oui est la réponse, de quelle opposition concrète s'agit-il et comment se cristallise-t-elle ?
Oui, l'opposition, telle qu'elle apparaît à travers le spectre du Parlement, elle est constituée essentiellement par le parti PJD, oui, d'une part, qui est le troisième parti du pays, et de ce qui reste de l'ancienne opposition, les anciens partis administratifs. Il y en a deux qui ont subi des pertes substantielles et qui constitue maintenant un reliquat de l'ancienne opposition.
Alors vous dites ce qu'il reste de l'ancienne opposition, que faut-il comprendre ?
Ben, c'est-à-dire que il est patent que ces partis bénéficiaient dans les temps passés d'un coup de pouce
de
l'administration.
Quand vous dites administration, est-ce que l'on pourrait cristalliser et savoir de qui concrètement il s'agit ?
Oui, l'administration, c'est connu. L'administration, c'est-à-dire les autorités territoriales, avec le ministère de l'Intérieur qui les coiffait. C'était la politique de l'État de l'époque. Parce que tout cela a une origine. Parce que au Maroc, depuis l'indépendance, il y a eu un conflit politique dans ce pays. Le mouvement national, qui a participé à la libération du pays, et ça, c'est une autre exception marocaine, n'a pas pris le pouvoir. Nous sommes un des rares pays, peut-être le seul pays dans le monde, où le mouvement national de libération n'a pas succédé aux autorités coloniales.
N'a pas été un parti unique par la suite.
Parti unique ou parti allié à d'autres partis, parti dominant, disons, parti. Et il avait des raisons pour l'être, parce que non seulement l'arithmétique ou ses forces ou ses leviers jouaient en sa faveur. Alors, l'État avait choisi une autre formule, c'est de créer une troisième force. et de susciter toute une clientèle qui était protégée, qui était appuyée et qui a servi pendant des décennies. Elle a servi de clientèle, elle a servi de support du régime, de l'administration. Et c'est pour cela que nous avons eu des partis politiques que nous appelions administratifs, dont la mission, dont la fonction, c'était de marginaliser les véritables partis d'opposition.
On pourrait comprendre que certains partis politiques auraient été fabriqués de toutes pièces afin de contrebalancer.
Tout à fait.
Pardon ?
C'était tout à fait le système et le mécanisme.
Le gouvernement algérien, officiellement, et à moi-même, le président Boumdiane, me l'a déclaré. C'est un homme qui, jusqu'ici, je dois le dire, a toujours tenu ses engagements. Il m'a dit, l'Algérie n'a aucune prétention sur le
Sahara. معاهدة معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون بين الجزائر والمغرب.
Il m'a dit, demande, prévenez-moi tout simplement 48 heures si jamais il y avait, qu'à Dieu ne plaise, un incident militaire, prévenez-moi 48 heures à l'avance que je puisse arriver à vos côtés. Exact, textuel.
تاريخ يحكم علينا ولا يحكم ضدنا. هذا موقف أخذينا.
S'il y a un pays en Afrique qui a fait de grands sacrifices pour la normalisation de ses rapports avec l'Algérie et avec la Mauritanie, c'est bien le Maroc. Eh bien, je ne tiens plus à ce que ces efforts soient vains, à ce que tout cela s'écoule à cause du Sahara. Nous reprenons notre liberté d'action pour ce qui est de la libération de ce pays.
Ça y est, le jour où nous nous rencontrons avec le peuple maghrébin. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le futur.
Mais là encore aussi, je pense que nous pouvons procéder par bond et par palier et ne pas chercher à régler l'impossible, mais à concrétiser le possible étape par étape et pas par pas.
فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد اليوم غدا بعد غد للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا.
C'est de ces phases historiques que nous avons débattu, que nous avons parlé lors des deux précédentes émissions pour nous amener à la phase que nous discutons aujourd'hui, à savoir l'actuel Maroc, l'actuelle Algérie. Quelles sont les similitudes ? Sont-elles très proches ? Sont-elles différentes ? Autant de questions que nous allons continuer à aborder jusqu'à la fin de l'émission. Nous avions écouté juste avant le document historique Abdelrahman Youssoufi. Opposant de longue date au régime du roi Hassan II, Abdelrahman Youssoufi a accepté de diriger en février 1998 un gouvernement d'alternance formé au lendemain des élections législatives de fin 1997. Renouvelé en juillet 1999 au poste de premier ministre par le nouveau roi Mohamed VI, Youssoufi a annoncé sa retraite politique après les élections législatives de fin 2002. Il reste toutefois à la tête de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires, jusqu'au prochain congrès de cette union. Youssoufi ne s'est véritablement imposé sur le devant de la scène politique qu'à l'occasion des élections législatives de 1993, où il a démissionné spectaculairement de son siège de député pour protester contre les manipulations du scrutin. Et nous passons ainsi à la troisième partie de l'émission. À travers les différentes interviews que nous avions réalisées, il a été question de la création d'un bloc maghrébin où chacun d'entre nous ou d'entre nos différents pays s'intégrerait
et oublierait ses frontières, enterrant ainsi les divergences politiques. Plus de tracés frontaliers, plus de territoires à réclamer. Mais dans quelle mesure ceci pourrait se faire, à quelle vitesse et entre quels acteurs? Des questions auxquelles vont répondre, monsieur Nabil Belabdallah, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement marocain. Écoutez.
Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Alors aujourd'hui, beaucoup traitent de bloc à bloc, et concernant le Maghreb, des politiques disent, si ce bloc n'est pas construit par les Maghrébins, on le construira pour eux. Alors qu'est-ce que, sur le plan politique et géopolitique, qu'est-ce que ceci pourrait signifier?
Écoutez, ceci pourra certainement signifier que ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde tend vers une recomposition de la carte géopolitique. L'Irak est un exemple concret de ce que vous venez de dire. Si vous n'êtes pas capable de faire par vous-même ce qui est attendu de vous, eh bien d'autres viendront le faire à votre place. Si les pays arabes ne sont pas capables d'aller vers l'instauration de systèmes démocratiques, d'autres viendront le faire pour eux. Et si nous, Maghrébins, nous ne sommes pas capables d'offrir un espace nouveau de développement, de prospérité, un espace qui vienne compléter des tendances naturelles d'autres blocs proches de nous, à commencer par l'Union européenne, de vouloir élargir leur audience économique et pourquoi pas politique, eh bien il se pourrait qu'à brève échéance, nous soyons amenés à aller dans ce sens-là, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'aujourd'hui, une leçon a été donnée, même s'il comporte énormément d'aspects négatifs, même si tous, donc nous sommes dans les pays arabes, démocrates, gens de progrès, toutes les personnes attachées aux valeurs de modernité, d'égalité, même si nous avons eu à critiquer la guerre qu'a subi l'Irak, eh bien, quelque part, il s'agit de reconnaître que aujourd'hui une nouvelle carte est en train de se dessiner, et il y a lieu qu'on comprenne fortement, que nos jeunesses comprennent, que nos structures politiques comprennent, que nos sociétés civiles comprennent, qu'il y a des pressions sérieuses à exercer à différents niveaux pour que nous puissions enfin aller vers un regroupement politique, économique, qui soit viable. Il est regrettable de constater aujourd'hui que nous sommes en train de laisser une chance historique passer devant nous et que nous avons pris énormément de retard.
Alors, vous parlez de chance historique. Quelle est cette chance historique? De quelle chance est-il question? Et comment exercer ce type de pression face à des frictions politiques souvent qui existent et qu'on ne peut pas occulter?
La chance historique que nous sommes en train de laisser passer, c'est que lorsque vous voyez au nord de notre ensemble, c'est-à-dire en Europe, les progrès énormes qui sont faits, voilà un regroupement qui, en 57, regroupait 6 pays, qui est passé à 9, puis qui est passé à 12, puis qui est passé à 15, et qui aujourd'hui passe à 25.
Une chance pour eux, mais pour nous, laquelle est-elle?
Non, je donnais cela en exemple, pour vous dire que ils rencontrent certainement beaucoup de problèmes. Mais voilà 25 pays qui sont peut-être unis par une seule référence, celle d'intérêt économique et celle d'appartenance à un même référentiel civilisationnel, je ne dirais même pas religieux. En face, c'est-à-dire pour nous, eh bien, nous avons absolument tout. Nous avons la communauté religieuse, la communauté civilisationnelle, la communauté linguistique dans sa diversité. Je ne parle pas que de la référence arabe, puisque vous savez très bien qu'en Algérie ou au Maroc, nous sommes porteurs de diversité culturelle, qu'il s'agit de relever et il s'agit d'en faire un atout. Nous sommes également porteurs de complémentarité entre nous à différents niveaux. Nos économies sont loin d'être contradictoires. Les aspects concurrentiels peuvent être stimulants et favorablement utilisés. Et malheureusement, un certain nombre de blocages, essentiellement au niveau politique, ont empêché cette chance historique de se développer. Je pense que personne ne pourra nier que nous avons laissé passer énormément de trains. Et le prix, c'est le sous-développement à différents niveaux que nous continuons de traîner dans nos différents pays maghrébins. Nous n'avons décemment pas... pas le droit de continuer dans ce sens. Et il y a lieu aujourd'hui que se forme ce que j'appelais tout à l'heure un fort mouvement social, un fort mouvement de progrès dans nos différents pays pour que les pressions nécessaires soient exercées et pour que des questions somme toute secondaires qui ont pris une proportion démesurée ne soient plus là pour empêcher le regroupement nécessaire et pour obérer toute chance de développement futur pour nos pays. Il n'y aura pas de développement conséquent pour les pays du Maghreb de manière unilatérale et dans l'isolement. C'est ma conviction. Notre chance à tous passe par le regroupement. C'est ce qui s'est fait dans le monde. La tendance aujourd'hui est d'aller vers cela. Face à un fort mouvement de mondialisation et de globalisation, il s'agit de savoir défendre ses intérêts. Et on ne défend pas ses intérêts lorsqu'on est le petit poussé du coin. On défend ses intérêts lorsqu'on représente un ensemble économiquement viable, capable d'être influent à l'échelle régionale et à l'échelle internationale.
Donc il y a un prochain train qu'il ne faut pas rater. Le dernier train, si je puis m'exprimer ainsi.
J'espère que ce ne sera pas le dernier, parce que malheureusement, force est de reconnaître qu'au-delà de certains discours, nous sommes encore en train de passer à côté.
Schématiquement, comment ?
Nous sommes encore en train de passer à côté parce que avez-vous vu quelque part quelque chose de sérieux se dessiner dans le cadre d'un regroupement ? Si ce n'est quelques réunions de ci, de là, qui finalement ne sortent pas avec grand-chose. Soyons conséquents, arrêtons d'avoir... de tenir une langue de bois qui ne nous mène nulle part. Et je me permets de revenir cette question pour vous dire que il n'y aura pas de développement. Nous ne devons pas penser uniquement à notre ensemble, à notre sous-ensemble, car finalement nous resterons un sous-ensemble. Il y a énormément de raisons qui militent pour que demain les pays arabes puissent constituer un bloc sérieux qui a son importance sur l'arène internationale. Eh bien, cela ne se fera pas.
Ce bloc est-il voulu quand on sait que des cartes sont tout à fait divisées, disloquées ?
Eh bien, écoutez, la seule possibilité pour que ce bloc puisse exister un jour, c'est qu'il puisse ne pas dépendre de décisions individuelles. C'est la seule possibilité. Je m'explique. Cela signifie que nous devons absolument agir à différents niveaux pour que l'exemple démocratique... pour que la construction démocratique fasse tache d'huile dans nos différents pays. C'est par la construction d'États démocratiques que les décideurs seront obligés de rendre compte, que le décideur aura, comme dans le monde économique, comme dans le monde entrepreneurial, des obligations de résultats à remplir. Et c'est par cette voie-là que nous imposerons de manière naturelle, de manière logique, que nous puissions aller vers un regroupement viable. C'est pour cela que, je vous le dis, c'est ma conviction, si demain il est considéré à l'échelle internationale de manière stratégique qu'il y a lieu de construire un certain nombre d'États démocratiques dans les pays arabes, eh bien je reviens à ce que vous disiez très justement au début de votre interview, si on ne le fait pas tout seul, d'autres viendront le faire à notre place. Or, une démocratie construite de l'extérieur ne sera jamais celle voulue par les peuples, tels qu'ils le souhaitent, tels qu'ils le désirent. Une démocratie conforme à leur histoire, à leur patrimoine, à leur culture, qui colle à leur réalité nationale. Je reviens à l'exemple irakien. J'ai personnellement beaucoup de doutes sur la possibilité de voir aboutir une démocratie viable en Irak si elle n'est pas réellement le fruit de la volonté populaire irakienne. Ce qui est souhaitable, c'est que les autres pays arabes qui ont des expériences naissantes, plus ou moins avancées, ou pas d'expérience du tout, il faut le reconnaître également, en matière de construction démocratique, eh bien que cela puisse se faire le plus rapidement possible par nous-mêmes et par la volonté de nos citoyens, par la volonté de nos opinions publiques, par la volonté de nos forces vives et pourquoi pas par la volonté de nos décideurs.
C'était Nabil Ben Abdallah, porte-parole du gouvernement marocain, ministre de la Communication. Et c'est ainsi que nous arrivons à la dernière phase de cette émission, une phase mise tout à fait à la fin de cette série de façon volontaire, l'islamisme. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. C'est un sujet très actuel ou d'actualité. Le 27 septembre 2002, 14 millions de Marocains étaient appelés aux urnes pour élire 325 députés. Le parti, le PJD, parti pour la justice et le développement de Abdelkrim Khatib, qui avait durci le ton à l'approche des élections, centre son discours sur la référence aux sources de l'islam. Le credo de ce parti serait l'islam comme base, la monarchie comme socle constitutionnel et la non-violence comme ligne de conduite. Appelant à la pérennité de la monarchie, n'écartant point un trucage, Abdelkrim Khatib suggère au roi Mohamed VI la nécessité d'organiser des élections libres et transparentes. Par ailleurs, ce routier de la politique, ancien officier de l'armée de libération marocaine, refusa et à plus d'une fois d'intégrer des gouvernements dont celui de Youssoufi et tout récemment le gouvernement de Driss Djeto. La presse a alors parlé d'islamisation en douceur. Il serait tout autant intéressant de savoir quel regard porte Abdelkrim Khatib sur l'expérience algérienne. Voici l'interview que nous a accordée le président du PJD, Abdelkrim Khatib.
En 1965, lorsque Feu Hassan II, que Dieu son âme, a décidé d'appliquer l'article d'état d'exception, article 35, j'ai refusé de rester et je me suis opposé avec quelques-uns à la... Et j'avais fait une déclaration qui avait été publiée par les journaux à ce moment-là en disant qu'à mon avis c'était un coup de force qui allait en appeler d'autres. Malheureusement, l'histoire a prouvé que j'avais raison et on a eu pas mal de coups d'État et pas mal d'essais de lutte armée qui ont existé au Maroc. Ensuite, après l'état d'exception, puisqu'en 65, Hassan II, que Dieu son âme, a voulu appliquer un article de la Constitution, l'article 35, qui donnait au monarque le droit de légiférer sans la Constitution, sans le Parlement. Mon parti, à ce moment-là, s'est divisé. Il faut diviser ceux qui approuvaient l'état d'exception et ceux, comme mes camarades et moi-même, avons refusé de reconnaître l'état d'exception, disant que pour nous, c'était un retard, un retour en arrière, alors que nous avions lutté pour avoir une constitution et vivre dans un pays de monarchie démocratique constitutionnelle. Le retour à l'état d'exception était un faux pas. Nous avons subi les conséquences, nous avons été exclus, mes amis et moi-même, du parti du mouvement populaire. Nous avons créé un autre mouvement qui s'appelle le mouvement populaire démocratique constitutionnel. Bon, c'est pour vous dire que la tendance était toujours constitutionnelle et démocratique. Nous avons subi les foudres du pouvoir, nous avons traversé le désert pendant des décennies, parce qu'il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas d'élection véritable, c'était des désignations, et nous avons refusé de cautionner ce qui se passait.
Ce qui se passait, c'est-à-dire vous...
Toutes ces élections truquées qui voulaient faire créer une fausse démocratie.
Oui.
C'est seulement après que, des années, lorsque Hassan II, arrivé à un âge assez avancé, a compris qu'il fallait laisser une démocratie dans ce pays, il a promis des élections libres, que nous avons accepté de participer à ces élections. Ensuite, après cette, si vous voulez, cette démocratisation, cette libéralisation du pouvoir, les amis de l'association Jadid al-Islah avaient demandé à créer un parti politique. Il leur a été refusé parce qu'il y avait, si vous voulez, une référence à la religion. Alors ils ont demandé à nous, les dirigeants du parti du mouvement populaire constitutionnel démocratique, s'ils pouvaient intégrer leur parti comme individu, comme individualité. Effectivement, nous d'abord, on leur a dit, la première des choses, c'est d'abord une référence à l'islam. la monarchie constitutionnelle et pas de violence. Ils ont accepté et ils ont intégré le parti. Ils ont pris une place prépondérante parce que parmi eux, il y avait beaucoup de jeunes intellectuels. Mm-hmm. Mon parti était déjà, comme moi, assez vieux. Les gens de la libération et de la résistance avaient déjà un âge canonique. Nous avons cédé la place à ces jeunes qui actuellement font partie pour la majorité du secrétaire général du mouvement. Mais la référence était d'abord la monarchie constitutionnelle.
Oui.
Et les libertés publiques. Voilà la base. C'est pour ça que vous me demandez comment on a fait pour
l'injonction
entre islam et démocratie
et monarchie.
Moi, j'estime sincèrement qu'il n'y a pas de contradiction entre les trois.
Il y a eu notamment dans plusieurs pays d'islam musulmans, la naissance d'une forme d'islam radical. Alors vous, comment est-ce que vous y parez? Comment est-ce que vous réagissez? Et comment est-ce que vous protégez contre ce radicalisme?
Comme nous comprenons l'islam ici au Maroc, surtout avec vous et moi-même, c'est une religion de tolérance, de progrès, de fraternité. Et je pense sincèrement que l'intégrisme est dépassé. L'intégrisme, qu'est-ce qui crée l'intégrisme actuellement? C'est ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est ce qui passe sous les dictatures. Que ce soit des monarchies ou des émirats ou des dictatures ou des républiques. Ce qui se passe au Moyen-Orient, malheureusement, donne un très mauvais exemple de ce que peut être l'islam actualisé. L'islam qui vit son siècle.
Oui. Comment est-ce que votre parti, le parti que vous présidez, réagit à l'expérience algérienne?
Mais sincèrement, personnellement,
oui.
Je regrette ce qui s'est passé en 91 lorsqu'on a interrompu les élections législatives. Je ne connaissais pas à ce moment-là les dirigeants du FIS. J'en entendais parler de loin. Mais je pense que sincèrement, si on leur avait laissé vivre l'expérience, eux-mêmes seraient revenus à des sentiments nouveaux. Parce qu'à l'expérience et à la pratique, il s'avère qu'on ne peut pas gouverner avec des dogmes.
Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de temps que...
De temps pour leur laisser faire leur expérience.
L'expérience politique ?
L'expérience politique, parce qu'il n'y avait pas la majorité. Il y avait, c'est-à-dire que le premier tour avait donné une certaine majorité proportionnelle, si vous voulez, relative au fils. Et peut-être que le deuxième tour aurait pu équilibrer les choses. Parce que moi, je connais personnellement Aït Ahmed, président des forces socialistes. C'est non seulement un ami, mais c'est un parent, puisque ma fille a épousé son fils. Donc, nous avons d'abord essayé de construire, nous, le Maghreb, à notre façon. Et, connaissant ses pensées, je pense que, sincèrement, il aurait pu faire un meilleur résultat qu'au premier tour, et qu'à ce moment-là, il y aurait un équilibre.
Oui.
Moi, je ne crois pas à tous ceux qui disent que les islamistes veulent le pouvoir, veulent la démocratie pour la tuer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes des démocrates. Et l'islam est une démocratie. Alors il ne faut pas nous diaboliser en disant vous êtes là, voilà ce que vous voulez. On nous fait des procès d'intention. Alors que nous sommes loin de ces idées-là.
Deux chefs du gouvernement vous ont proposé d'adhérer ou de faire partie de leur gouvernement, notamment le Premier ministre Idriss Déby, me semble-t-il. Qui aurait proposé au PJD d'adhérer au gouvernement, mais vous avez préféré temporiser. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Si oui, pourquoi?
Oui. D'abord, je ne parle pas de moi-même. Le PJD est un parti jeune. Il a besoin d'expérience.
Mmh.
Et on ne peut pas prendre des ministères si on n'a pas derrière soi tout un background. Capable de faire pour réaliser des choses.
Un capital d'expérience.
Alors il faut attendre. Et mes amis, actuellement au Parlement,
oui.
Où nous avons une représentation conséquente avec six femmes comme parlementaire, 2 élus à suffrage universel, 4 élus sur la liste nationale. Nous pensons que progressivement, ils vont s'habituer aux affaires publiques et à la gestion des affaires publiques. Et je crois que l'expérience leur sera profitable si ils participent aux élections communales et s'ils commencent déjà à gérer les communes avant de vouloir gérer l'État. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Le PJD n'aspire pas au pouvoir pour le pouvoir. Ce qui nous intéresse, sincèrement, c'est d'abord de moraliser la vie politique. Essayer de la moraliser. Vivre dans un parti, dans un pays où vraiment on a le respect non seulement des droits de l'homme, mais aussi des droits de la société. Mm-hmm. Il faut que la société, que les droits de la société soient respectés.
Découvrez nos programmes. Choisissez votre outil d'écoute. Branchez-vous Radio Algérie. Tendez l'oreille, nous sommes des gens de parole.
Les interviews que vous avez écoutées ont été réalisées à 10 jours avant les attentats de Casablanca. Quels sont les facteurs pouvant engendrer cette situation ou ces situations? Le Maroc, à travers ses turbulences, serait-il le reflet d'un déjà-vu? Ce sera peut-être le sujet d'un autre document. Nous avons abordé pendant plus de 3 émissions, différents sujets et entrées aux relations algéro-marocaines, des relations qui achoppent sur un certain nombre de problèmes ou un certain nombre de questions. Nous avons abordé la question des frontières, une question qui se pose de façon pointue entre les deux pays, entre le Maroc et l'Algérie, un problème qui débouche sur une impasse, semble-t-il, ou sur ce qu'on appelle une introuvable réconciliation entre Alger et Rabat. Nous avons également tenté de faire apparaître à travers ces interviews les différents aspects de la vie marocaine, de la vie politique marocaine. Nous espérons avoir réussi quelque peu à amener un certain nombre de réponses, à un certain nombre d'interrogations à travers ces documents que nous diffusons depuis mardi dans ces émissions spéciales Histoire en Marche. Alors, ces émissions qui ont été réalisées par Jalil Lakhdar et coordonnées par Samiha Hali ont été, je vous le rappelle, consacrées au Maroc, à l'Algérie et aux relations algéro-marocaines. Au terme de cette émission, nous tenons à remercier le personnel des archives de la télévision, le personnel des archives de la radio nationale, M. Yazid Bounar, qui est chef de bureau de l'agence Presse Service à Rabat, M. Mohamed Mezienne, qui est chargé de communication à l'ambassade d'Algérie au Maroc, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces émissions. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain à partir de 18h pour un autre sujet d'actualité. Merci, au revoir.